Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et bienvenue dans l'émission Regard sur le passé qui vous est proposée par le service patrimoine de la mairie de L'Île-Dieu. Je suis Pauline et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler de L'Île-Dieu à l'aube de la Révolution. Les sources qui évoquent la vie sur l'île durant l'Ancien Régime sont plus nombreuses que pour le Moyen-Âge et la Renaissance. Je vais donc pouvoir parler en détail de la vie économique et sociale au XVIIe et au XVIIIe siècle et conclure en évoquant quelques anecdotes sur la période révolutionnaire à L'Île-Dieu. L'île se tourne résolument vers le monde maritime au XVIIe siècle avec le développement du cabotage. Il s'agit de transporter des marchandises par voie maritime en naviguant le long des côtes. L'Île-Dieu semble s'être rapidement spécialisée dans le transport des vins et des liqueurs de la région bordelaise avec laquelle elle entretenait des rapports privilégiés. À la fin du XVIIe siècle, l'île comptait à peu près 180 barques de cabotage. Il s'agissait de petites unités qui jaugeaient rarement plus de 30 tonneaux. Les équipages étaient composés de 4 à 6 personnes, dont le capitaine, qu'on appelait alors maître au cabotage ou maître de barque, et le mousse, qu'on appelait le garçon. Commandé dans les chantiers navals des Sables d'Olonne ou de Bretagne, ces petits navires à 2 ou 3 mâts étaient bien souvent financés par la bourgeoisie huilaise, elle-même issue du monde maritime. Le coût de chaque navire était divisé en plusieurs parts détenues par des personnes différentes et chaque armateur investissait souvent dans plusieurs navires à la fois. Ce morcellement de l'investissement réduisait le risque de tout perdre si un navire disparaissait à la suite d'un naufrage ou de l'attaque d'un corsaire, ce qui était fréquent. D'ailleurs, les contrats établis pour l'affrètement de ces barques s'appelaient des prêts à la grosse aventure, un terme juridique assez révélateur des risques encourus par les négociants et les investisseurs. L'âge commençait en octobre et se terminait en juillet de l'année suivante. Les barques se rendaient d'abord à Bordeaux, chargeaient une première cargaison de vin, puis entamaient un premier voyage. Entre octobre et juillet, elles en faisaient plusieurs et desservaient souvent les mêmes ports. Étant de petites unités, les barques ilaises reliaient le plus souvent Bordeaux à la Bretagne et desservaient par exemple Brest, Quimperlé, Nantes ou encore Redon, qui était le port de Rennes à l'époque. Quelques barques plus grandes allaient plus loin. Deux exemples en 1699. La Ménagère assura les échanges entre Bordeaux et Bourgneuf-en-Ré. Et oui, Bourgneuf, c'était un port assez important sous l'Ancien Régime. Quant à la Sylvie, un plus gros navire, elle put se rendre jusqu'en Irlande, à Cork. Toujours en 1699, une barque de L'Île-Dieu monta jusqu'à Amsterdam et deux descendirent jusqu'à Bilbao. Le port de L'Île-Dieu, à l'époque, était celui qui, en Europe, comptait le plus de navires de cabotage destinés à transporter le vin de Bordeaux, juste derrière le port d'Amsterdam. Par contre, j'imagine que le tonnage était juste un tout petit peu moins important dans le port de L'Île-Dieu. Petite anecdote, les pruneaux de nos spécialités gastronomiques sont un héritage de l'époque du cabotage. Lorsqu'ils se rendaient à Bordeaux, les maîtres au cabotage achetaient des pruneaux pour consommer à bord et préserver ainsi l'équipage du scorbut. Ces pruneaux, bien conservés dans le rhum ou dans l'eau de vie, ne se perdaient pas. Les restes étaient amenés sur l'île et les recettes que nous connaissons aujourd'hui ont été inventées au fil du temps pour les apprêter. L'été, le cabotage était à l'arrêt. Certaines des barques de cabotage en profitaient pour pratiquer la pêche hauturière. Un mémoire, rédigé en 1728 par le maçon du parc, nous apprend qu'il y avait alors environ 20 barques qui pratiquaient la pêche au thon germont. D'autres bateaux, plus petits, se livraient à la pêche côtière. Il y en avait environ 25. Le mémoire fait aussi état de pêche à pied, c'est-à-dire la pêche depuis la côte. On pouvait ainsi pêcher au casier, à la ligne, avec une fouenne, qui est une sorte de harpon. On utilisait aussi des filets dans les pêcheries. Il s'agit de petits murets qui servaient à piéger les poissons à marée basse. L'immense majorité du poisson était consommée sur l'île au fur et à mesure qu'on le pêchait. et seuls quelques thons étaient vendus. On voit bien que la pêche était alors une activité d'appoint. Si le cabotage est le premier pilier de l'économie insulaire d'Ancien Régime, l'agriculture en forme le second. Tout comme la pêche, elle est vivrière. Ainsi, en 1724, l'île produit 350 tonneaux de blé, soit environ 40 tonnes. Ce n'est pas énorme pour une population d'environ 2500 habitants, surtout si on garde à l'esprit que les céréales étaient alors la base de l'alimentation. Au XVIIe siècle, le cabotage a permis une certaine prospérité. La population de l'île a augmenté. Le début du XVIIIe siècle a donc vu un important défrichage des terres de l'île afin de nourrir cette population accrue. Jusque dans les années 1930, il ne restera sur l'île pratiquement que des arbres fruitiers et les haies. Mais revenons à l'Ancien Régime. Environ 1300 hectares, soit la moitié de l'île, étaient exploités alors, selon un cycle biennal. Une année, ces terres étaient cultivées, et une année, elles étaient laissées en jachère. Cependant, ce n'était pas toujours suffisant pour obtenir de bons rendements, comme en témoignent les nombreux procès pour vol de terres. On cultivait sur l'île du froment, de l'orge, des fèves, mais aussi des potagers et quelques vergers. L'île comptait au XVIIe siècle 9 moulins, dont 5 moulins banneaux, cela signifie qu'ils appartenaient aux seigneurs. Les landes incultes qui entourent nos côtes servaient de pâture pour les nombreux moutons et pour les plus rares vaches et chevaux. Il semble d'ailleurs que ces derniers peinaient à trouver des terres assez riches pour leurs besoins, car selon Masson du Parc, ils descendaient sur les plages pour s'y nourrir d'algues. Moins gourmands, les moutons de prés salés de l'île Dieu, proches de ceux de Ouessant, étaient près de 5000 à la fin du XVIIIe siècle. Ça faisait 2 moutons par habitant. Toutes les familles de l'île pouvaient en avoir un, même celles qui n'avaient pas de champ. En effet, les îlets avaient le droit de vaine pâture, autrement dit, étaient autorisés à laisser paître leurs bêtes le long des chemins. Gare à celui qui ne clôturait pas son potager. Celui, ou plutôt celle. Car l'agriculture était affaire de femmes. La majorité des hommes naviguant au cabotage, ils étaient absents 10 mois de l'année et leurs épouses géraient les productions agricoles pour nourrir l'île. Il y avait une multitude de petites fermes, avec des terrains souvent dispersés. Ainsi, on pouvait cultiver un petit peu de tout et également avoir des pâtures pour les animaux. Les épouses des matelots, des maîtres au cabotage, à qui appartenaient les fermes, étaient secondées dans l'exploitation de leurs terres par des journalières. Ces femmes de condition modeste vendaient leurs bras car elles n'avaient pas elles-mêmes de ferme. Même chose pour les hommes journaliers, qu'on appelait à l'île-dieu des laboureurs, car ils vendaient leur force de travail aux fermières pour réaliser les labours. Les autres hommes de l'île qui vivaient appartenaient à la bourgeoisie, comme les armateurs, les négociants, ou étaient artisans. Ainsi, il y avait des tisserands, des forgerons, des menuisiers, mais aussi des voiliers, des cordiers, etc. etc. Les artisans, dont le savoir-faire était utilisé par la marine, faisaient, au même titre que les marins, partie de ce qu'on appelait les gens de mer. Depuis 1668, les gens de mer étaient recensés et soumis au régime des classes. Ce système avait été créé par Colbert afin de garantir des équipages suffisants et compétents sur les vaisseaux du roi. Toutes les côtes françaises sont alors découpées en départements maritimes, eux-mêmes divisés en régions. L'île-Dieu dépendait du département de Rochefort et de la région des Côtes de Poitou, dont le commissaire aux classes était établi au Sable d'Olonne. Les gens de mer recensés dans chaque région sont répartis en classes. Il y en avait 3 pour l'île-Dieu. Chaque année, une classe était appelée à servir sur les vaisseaux royaux. Ainsi, chacun y servait à son tour tous les 3 ans. Les marins concernés devaient alors rester à l'île-Dieu pendant cette année-là, ou naviguer dans les parages afin de pouvoir se rendre à Rochefort ou parfois à Brest dans les 2 semaines qui suivaient leur convocation. Cela signifiait pour eux Une année sans cabotage et donc une baisse de revenus considérable pour le marin, malgré la solde versée par l'administration royale. L'enrôlement était malgré tout obligatoire et le refus de répondre à l'appel sévèrement puni. Triste exemple en 1698. Lorsque les soldats du gouverneur font part à Julien Beaubois de sa convocation pour son service de classe, son père Jean s'oppose violemment au départ de son fils. Un échange de tirs se conclut alors par la mort de Jean et le départ forcé de Julien. Plus subtil, les deux matelots qui demandent à leur maître de barque d'éviter l'île-Dieu, car il devait servir sur les vaisseaux du roi en cette année 1781, mais avait préféré entamer une saison de cabotage comme si de rien n'était. Louis XIV parlait d'une aversion presque insurmontable qu'ont les gens de mer de s'engager au service de nos vaisseaux. Pourtant, Colbert et lui tentèrent d'offrir des compensations aux marins en leur garantissant par exemple un revenu s'ils étaient blessés au service du roi. C'est ce qu'on appelle les invalides. Il s'agit en somme de la première caisse de retraite de France. Le recensement des gens de mer nous permet d'avancer avec précaution quelques chiffres. Il semblerait par exemple qu'en 1724, l'île-Dieu comptait 757 marins, dont 10 invalides ou fuyards. Sous l'Ancien Régime, l'île-Dieu ne comptait qu'une seule paroisse, celle de Saint-Sauveur. Le curé figure parmi les notables de l'île et joue un rôle important dans la vie locale. Ainsi, au XVIIe siècle, le curé Angot a à cœur de venir en aide aux indigents et crée ainsi deux communautés religieuses, la confrérie de la charité des pauvres honteux et la communauté des filles de la charité. Financées par les amendes des délinquants et criminels locaux, elles soignent et nourrissent les malheureux. Les filles de la charité vont aussi instruire les jeunes ilaises, de sorte qu'au XVIIIe siècle, plus de 35% des femmes de l'île savent lire et écrire, un chiffre record pour la France de l'Ancien Régime. D'ailleurs, les hommes ne sont pas en reste. Plus de 60% savent lire et écrire, une nécessité lorsqu'on travaille dans la marine, car pour devenir maître au cabotage, il y avait un examen écrit à passer. Dans la première moitié du XVIIe siècle, l'île-Dieu appartenait à la famille des Rieux d'Assérac, puis elle est vendue, et par le jeu des héritages et des mariages, elle passe finalement à la famille des ducs de Rochechouart-Mortemar. Ces grands seigneurs ne vivent pas sur l'île-Dieu. Ils y viennent d'ailleurs rarement. L'île est gérée depuis sa capitale, Saint-Sauveur, par le gouverneur de l'île-Dieu, un officier seigneurial qui a un rôle militaire et administratif. Il se doit de faire respecter les lois, de rendre la justice, d'entretenir les forts sur les côtes de l'île pour la protéger, entre autres. Au XVIIe siècle, les gouverneurs étaient aussi chargés de faire respecter le régime des classes, mais ils s'en sont acquittés sans grand enthousiasme et avec assez peu d'efficacité. C'est sans doute parce qu'ils avaient eux-mêmes investi dans les barques du cabotage et avaient peu d'intérêt à voir les matelots partir au service du roi. À la veille de la Révolution, le gouverneur de l'île, c'était Alexis de Verteuil. Il a marqué l'histoire parce qu'il était unanimement méprisé de toute la population de l'île. Ses administrés étaient exaspérés par son manque de respect le plus élémentaire. On rapporte par exemple que ses poules se promenaient sans vergogne au milieu des tombes dans le cimetière paroissial qui jouxtait sa propriété. Quel scandale ! Le vrai reproche que les habitants de l'île-Dieu lui faisaient était moins ouvertement avouable. Il les aurait spoliés sur les bénéfices réalisés par la Société des Tabacs, une entreprise à la légalité plus que douteuse dans laquelle avait investi une bonne moitié des habitants de l'île. En effet, depuis plusieurs siècles, le statut insulaire de l'île-Dieu lui permet de bénéficier d'une franchise qui la dispense de toutes les taxes royales. Par exemple, les îlets du XVIIIe siècle payaient leur tabac jusqu'à 30 fois moins cher que les continentaux. Les navires revenant d'Amérique étaient nombreux dans nos eaux, et il était tentant pour les caboteurs de l'île-Dieu de leur acheter du tabac et de le revendre ensuite le long des côtes françaises. Sous le manteau, bien entendu, il s'agissait de contrebande, un crime puni de pendaison à l'époque. Et pourtant, organisé au sein de cette société des tabacs, le trafic insulaire avait atteint de telles proportions que le roi Louis XVI, exaspéré par le manque à gagner que cela représentait pour l'État, décida de racheter l'île au duc de Rochechouart Mortemart en 1785. Un rachat à prix d'or qui devait permettre au roi de revoir le régime fiscal de l'île comme bon lui semblerait. La société de tabac disparaît alors et une partie de ses actionnaires quitte l'île. Puis la révolution éclate. Les députés des États généraux votent l'abolition des privilèges pendant l'été 1789. Le roi est contraint d'accepter ce vote et de composer avec les députés. De nouvelles institutions sont créées. Ainsi, en janvier 1790, le premier maire de l'île-Dieu est élu. Il s'agit de Luc Moiseau. Au nombre de ses conseillers figure Amable Cadou, le curé de Saint-Sauveur, qui, un an plus tard, prêtera serment à la Constitution. Les conseillers municipaux n'auront de cesse de chasser Alexis de Verteuil. C'est chose faite le 14 juillet 1791. Saint-Sauveur cesse alors d'être le centre administratif de l'île, car la mairie nouvelle est située au port. Mais les révolutions, ça coûte cher. Et l'abolition des privilèges se ressent durement sur l'île, qui avait été si longtemps une zone franche. L'annonce de la création de nouveaux impôts met le feu aux poudres en janvier 1792. Menée par des figures locales haut en couleur, comme la Grande Nanon ou la couturière Julienne Foisson, plus de 200 femmes manifestent devant la mairie, réclamant à corps et à cri le retour à la franchise fiscale et la destitution de la municipalité. Le lendemain, l'émeute rassemble 800 personnes et oblige les conseillers municipaux à s'enfuir pour la très républicaine ville des Sables d'Olonne. On envoie alors la troupe sur l'île, mais les soldats la trouvent presque totalement apaisée. Ils arrêtent quelques meneurs qui seront condamnés à la prison à perpétuité, mais grâcés 3 ans plus tard. Si la population de l'île-Dieu regrette l'exemption de taxes que lui avaient octroyé les privilèges d'Ancien Régime, les notables appartenant à la bourgeoisie d'affaires ne sont pas hostiles aux idées nouvelles. Dans les années qui suivent, le culte de la raison remplace la religion catholique. Le port devient port de la sans-culotterie, alors que le bourg est rebaptisé le Mont-Libre et l'île elle-même l'île de la Réunion. Pris dans l'impulsion du moment, le curé Cadou renonce tout bonnement à la prêtrise pour convoler avec une jeunette de 28 ans. Plusieurs marins y laient, à l'instar du corsaire Jean-Simon Chassin, combattent eux les Anglais sur les vaisseaux de la jeune République. La situation de l'île-Dieu est pourtant loin d'être enviable. Elle n'est pas tout à fait autosuffisante et le commerce, ainsi que le cabotage, sont mis à mal par les conflits générés par cette époque troublée. Tout le monde ne mange pas à sa faim sous la révolution à l'île-Dieu. Comme on le sait tous, la Vendée se soulève contre la République en 1793. C'est le début des guerres de Vendée. Ce conflit fera rage pendant 3 ans, mais l'île-Dieu ne s'y implique pas davantage que la majorité des ports vendéens. Pourtant, alors que Charette est en difficulté dans le marais breton, c'est à l'île-Dieu que débarque le comte d'Artois, futur roi Charles X, à la tête de 6000 hommes, dont 5000 soldats anglais et 1000 émigrés français. Nous sommes en septembre 1795 et il espère porter secours au chef vendéen. Cependant, les communications sont difficiles et un débarquement risqué. L'état-major anglais tergiverse pendant 2 mois et demi. Les ressources en eau, en bois et en nourriture de l'île commencent à s'épuiser. Les rapports se tendent entre les soldats anglais et la population, alors que la municipalité est depuis le premier jour hostile aux occupants qui se réclament du roi Louis XVIII. Finalement, en décembre, l'expédition de l'île-dieu se termine sans qu'aucune aide ne soit apportée à Charette, mais laissera les habitants de l'île encore plus démunis. Entre le rachat de l'île par Louis XVI en 1785 et le départ du comte d'Artois 10 ans plus tard, l'île perd presque 1500 habitants. Réfugiés sur le continent, certains d'entre eux reviendront au tout début du XIXe siècle, qui marque le début d'une ère nouvelle pour notre île, avec le développement, petit à petit, de la pêche. Mais c'est là une autre histoire. La semaine prochaine, Pascal vous donne rendez-vous pour raconter l'histoire des conserveries. Quant à moi, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous retrouverai dans quelques semaines pour une nouvelle émission. Au revoir !